France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le Festival du Livre de Paris a fermé ses portes le week-end dernier, marqué par une édition qui s'est déroulée sous la nef du Grand Palais et qui a accueilli 114 000 visiteurs, dont 43% avaient moins de 25 ans. La programmation qui mettait à l'honneur le pays invité, le Maroc, a mis en avant la diversité des voix francophones et internationales reflétant les dynamiques de la littérature contemporaine. Mais comment définir la littérature aujourd'hui? Les définitions existantes peuvent-elles nous suffire, nous contenter? Peut-on même d'ailleurs s'en satisfaire? Pour tenter de répondre à ces questions vastes et passionnantes, un invité ce soir, Tristan Garcia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, romancier, enseignant à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Dans votre article publié dans la revue Projet, vous esquissez les contours de cette question vertigineuse. Peut-on encore définir la littérature? Bienvenue. Et ce paradoxe, Tristan Garcia, que vous mettez en exergue justement dans cet article, plus on diffuse la littérature, plus on y a accès sous des formes nouvelles, sous des formes nombreuses et multiples, plus on la diffuse et plus on a du mal à la définir. Quand on observe, quand on constate le succès justement d'un événement comme le Salon du Livre de Paris, on se dit que la diffusion de la littérature n'est pas prête de s'arrêter, contrairement à ce que beaucoup assument et prétendent. Alors pourquoi est-il si compliqué de la définir quand sa diffusion est si large ?
D'abord, c'est un complexe, c'est un concept qui est très difficile à définir parce qu'il recoupe plein d'autres idées, plein d'autres concepts. Vous venez de parler du Salon du Livre. La littérature et le livre, déjà, c'est pas la même chose. La littérature, elle a longtemps existé dans les cultures humaines. Elle existait avant le livre. Au sens strict, littérature, c'est la littéra, c'est la lettre. Mais ça fait maintenant une cinquantaine d'années que beaucoup d'anthropologues, beaucoup d'historiens ont insisté sur les origines orales de la littérature et sur la coexistence permanente dans toutes les cultures humaines, y compris dans des cultures modernes ou contemporaines, de l'écrit et de l'oral. Donc quand on va au Salon du Livre, on a l'impression de faire un panorama de la littérature, mais ça n'est pas vrai. La littérature, c'est plus que le livre. Et le livre, ça n'est pas que la littérature. Parce que quand on publie, le monde de l'édition ne concerne pas que la littérature. Le monde de l'édition publie de l'édition scientifique, de l'édition juridique, il publie des hommes politiques, des biographies d'hommes politiques. Donc, dans une sorte d'entre-deux, la littérature, c'est à la fois moins que le livre, plus que le livre. C'est à la fois oral, c'est à la fois écrit. On le voit bien aujourd'hui, si on va ne serait-ce que dans une librairie, c'est de la fiction et c'est de la non-fiction. Mmh. Toute la fiction n'est pas nécessairement de la littérature. Il y a de la fiction cinématographique. La majorité désormais de la consommation de fiction contemporaine, c'est plutôt de la fiction de plateforme. C'est plutôt Netflix, Amazon ou Hulu. Ça s'inspire parfois de la littérature, mais ça n'est pas de la littérature. Dans la non-fiction, il y a de la littérature et non. Donc, on ne sait pas très bien où c'est la littérature, et c'est une vieille question qui se déplace.
On ne sait pas trop bien où c'est une vieille question, vous avez raison. On a le sentiment aussi que la tentative de définition est à peu près aussi ancienne que la littérature elle-même.
Alors, déjà, je ne sais pas si c'est une bonne question. Là, en l'occurrence, dans la revue, c'était une commande pour répondre à cette question. C'est une question qui est le titre d'un ouvrage de Sartre.
Vous parlez de la question que vous posez dans le Qu'est-ce que la littérature?
C'est un article devenu un livre célèbre de Jean-Paul Sartre après la Seconde Guerre mondiale, à la fin des années 40. D'ailleurs, un livre en fait très polémique. Donc, je ne sais même pas si c'est une bonne question, parce que quand on pose la question, on a l'impression qu'on va devoir définir des périmètres, vous voyez. C'est-à-dire, on va dire, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la littérature, voilà ce qu'il y a à l'extérieur. Et le piège à partir de là, c'est que littérature, ça a toujours été, depuis son émergence dans la culture européenne, disons, humaniste, à la fois un concept descriptif et un concept honorifique. C'est-à-dire que quand on dit littérature, on veut décrire quelque chose, un mode d'expression humain, mais en même temps, c'est honorifique, parce que littérature veut dire bonne littérature. Bon discours. C'est quelque chose qui qualifie et de façon améliorative un certain type de production humaine. Et donc on est toujours piégé parce que dès qu'on essaye de répondre à cette question, à la fois on fait un peu de sociologie, on fait un peu d'anthropologie, on s'intéresse aux médias, à des formes de communication, on s'intéresse à l'édition, etc. Et en même temps, on définit une sorte de modèle qui après devient très normatif, parce que quand on définit la littérature, on définit aussi ce qui va être enseigné ensuite, à l'université, à l'école, ce qui va faire les programmes, et ce qui va servir de modèle et de norme pour la bonne littérature.
Alors à propos de normes, justement, vous évoquez ce texte, « Qu'est-ce que la littérature ?» sorti en 1948, signé Jean-Paul Sartre, très polémique, puisque certains, même comme Alain Robbe-Grillet, le critiquaient vertement.
Le livre de Sartre reprend une position très traditionnelle qui distingue la forme et le contenu. Ça lui fait d'abord opposer la prose et la poésie. Il imagine que dans la prose, il y a un contenu préalable, c'est-à-dire que l'écrivain a quelque chose à dire. Il a en tête un récit. Mais il y a en tout cas un récit qui existe avant toute formulation de ce récit. Et il y a, d'autre part, le style, qui est la forme dans laquelle ce récit est mené. C'est, en gros, écrire bien ou écrire mal, écrire de façon musicale ou écrire de façon chaotique, etc. Mais c'est un peu une sauce. Ce qui est important, c'est le poisson. C'est-à-dire que, à la limite, on peut imaginer que pour Sartre, dans la prose, le style est uniquement un moyen de faire passer le message du contenu.
La voix d'Alain Robbe-Grillet, une archive de 2003 dans ce texte. Hein, qu'est-ce que la littérature ? Sartre distingue effectivement la poésie qui donne le primat au son, de la prose qui donne le primat au sens. Alors vous êtes, Tristan Garcia, vous-même plutôt Sartre ou plutôt Robbe-Grillet dans cette tentative de définition et de réinterprétation des critiques ?
Dans sa critique qui reste mesurée, Robbe-Grillet a ses raisons. Quelque chose qu'il ne dit pas, c'est que la dualité qui est posée par Sartre entre prose et poésie, entre, disons, la prose, c'est la partie de la littérature qui utilise le mot et la langue comme véhicule, en effet, de sens. Et le poète, il est rejeté, il est placé par Sartre du côté du peintre ou du musicien. C'est celui qui utilise la langue, ou la parole comme matière, comme une matière. Ce que ne dit pas, en plus, Robbe-Grillet, c'est que dans cette conception-là, Sartre, en fait, hérite d'une histoire de la littérature qui est très scolaire et qui est celle de la France, en fait, de la Troisième République, qui culmine dans des manuels comme le Lagarde et Michard, avec une tripartition, le roman, parce qu'en fait, quand Sartre parle de la prose, il parle essentiellement du roman, un petit peu de la poésie en prose, la poésie et, sur le côté, le théâtre. Depuis le livre de Sartre, il s'est passé sur une cinquantaine d'années énormément de choses au-delà de l'histoire littéraire française qui font que ces termes-là ne veulent plus dire grand-chose. La première chose, c'est que on a commencé à faire des histoires globales de la littérature, d'abord dans le monde anglo-saxon. Et on a décentré pas seulement la littérature de l'Occident ou de l'Europe, du roman naturaliste, bourgeois du 19e siècle, russe, du roman français, du nord de l'Italie, comme si c'était le centre de gravité, pas seulement de la littérature, mais au sein de la littérature de la prose. On a fait remonter beaucoup plus loin dans le temps la littérature, en allant, comme je disais, vers la littérature orale, en intégrant les sagas scandinaves, Gilgamesh, les débuts de l'écriture en acadien, en sumérien, les grandes épopées indiennes, le Ramayana, le Mahabharata, les livres merveilleux chinois, les codex, les petites épopées arméniennes, etc. Donc ça a rouvert le champ, et ça a décentré d'une littérature qui, encore dans l'esprit de Sartre, est très centrée sur la littérature d'Europe de l'Ouest, du 19e siècle, et pour la poésie, et pour le roman. Le deuxième événement, c'est que même si Sartre, par exemple, s'intéressait au roman noir, à partir des années 60-70, quand on parle de paralittérature, de littérature des marges, il y a un ensemble de genres, le fantastique, la science-fiction, la fantasy, le roman noir, le thriller, qui étaient des paralittératures, c'est-à-dire qui cernaient la littérature, mais qui étaient des littératures liminales, des sous-littératures, etc., qui ont été réintégrées dans le champ littéraire. On n'a plus un schéma avec une littérature neutre, blanche, générale, et puis de la littérature de genre. La porosité est beaucoup plus grande et le genre a réintégré le champ de la littérature. Mais il y en a plein d'autres. Il y a l'émergence dans les années 80 de la littérature jeunesse, qu'on a appelée la littérature pour la jeunesse, puis la littérature de jeunesse, le salon de Montreuil, vous voyez. Et donc, l'idée que la littérature, c'est pas simplement la production générale centrée sur le grand roman européen, bourgeois, psychologique, à l'usage des adultes. Il y a la bande dessinée, l'art séquentiel. Donc, il y a énormément de choses qui se passent après le discours de Sartre qui font que articuler un discours définitionnel sur la littérature autour de la pure opposition prose-poésie est aujourd'hui intenable, n'a rien à voir avec ce qui se fait et ce qui se lit.
Une autre question, Tristan Garcia, que vous soulevez dans cet article, c'est en creux, quand on tente de définir ce qu'est la littérature, on tente aussi de répondre à la question, à qui appartient-elle la littérature ? Est-ce qu'elle appartient aux écrivains, aux lecteurs ? Est-ce qu'elle appartient parfois aussi à l'État ? Est-ce qu'elle appartient à divers artistes ? Alors justement, à qui appartient-elle cette littérature ? Est-ce que c'est une question qui est plus pertinente, selon vous, que la définition même de la littérature ?
Oui, moi je pense que le mieux, c'est de ne pas penser une sorte de concept discriminant. Hein. Qu'est-ce qui est littéraire, qu'est-ce qui n'est pas littéraire.
Faut pas exclure.
Il faut penser la littérature comme une sorte de forme plus ou moins souple, hein, historique, qui traverse les époques, les cultures, les langues, et qui se contracte et qui se dilate. Il y a des moments de dilatation de la littérature qui a tendance à intégrer dans son champ énormément de pratiques, de discours qui étaient marginalisés. Et il y a des moments de contraction. Je pense qu'on vit aussi un moment politique où il va y avoir de nouveau un enjeu fort politique à la définition d'une littérature contractée ou dilatée. Il y a pas mal de signaux, pas seulement en France, hein, dans beaucoup d'aires linguistiques, d'une sorte de retrait vers une littérature nationale, hein, où la littérature devrait être le lieu de définition de l'esprit d'un peuple à travers sa langue. C'est le cas dans des pays où il y a des forces assez nationalistes qui sont au pouvoir, je pense à l'Inde par exemple, mais aussi au Japon. Et c'est le cas en France, où il y a, disons, une poussée aussi dans une conception de la littérature qui viendrait rejoindre l'idée de grand roman national où il faudrait, en gros, arrêter avec les bêtises de vouloir enseigner au collège de la littérature traduite de toutes les langues et revenir vers le français, la littérature en français. Et l'identité nationale se jouerait aussi à travers la langue et la littérature. Donc ça serait le mouvement de recontraction de la littérature vers, disons, l'esprit national des peuples. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui joue un rôle important depuis les années 90 et qui, pour le meilleur et pour le pire, a aussi accompagné la mondialisation et la critique de la mondialisation, c'est l'idée de littérature monde. C'est l'idée d'une littérature qui serait centrée aussi sur le phénomène de la traduction, sur l'échange culturel, qui serait décentrée justement de l'Europe, qui a permis à beaucoup d'auteurs de l'espace caribéen ou d'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest francophone, par exemple, mais aussi ce qu'on appelait avant le sous-continent indien, d'éditer leurs œuvres, mais avec quelque chose qui rejoint l'actualité et qui, trop souvent, à mon avis, n'est pas dit, c'est que la base matérielle de cette littérature monde, qui a un idéal très beau, très juste, qui serait, pourrait-on dire, la réactualisation décolonisée de ce qu'était la République des lettres dans l'Europe humaniste, mais à l'échelle d'un monde décentré de l'Europe, cette fois-ci. Le problème, c'est que la base matérielle de ça, c'est-à-dire les maisons d'édition, les universités, c'est les États-Unis. C'est le monde universitaire américain qui a accueilli énormément d'écrivains de diaspora, de différentes diasporas. Et aujourd'hui, on l'entendait aux informations, qu'est-ce qui se passe? On a des maisons d'édition américaines et surtout des universités américaines qui sont soumises à une très forte pression avec Trump. Et on voit bien que il est tout à fait possible dans les années à venir qu'un certain nombre, c'est pas seulement des chercheurs, c'est pas seulement la recherche qui va être atteinte par la politique trumpiste, c'est aussi la base matérielle de la littérature monde, avec des écrivains nigérians, des écrivains haïtiens, qui enseignent aux États-Unis dans un certain nombre de facs, pour avoir les moyens d'éditer une littérature qui, très souvent, se met malgré tout en anglais et qui est éditée par des éditeurs américains. Si cette base matérielle s'effrite, et ça va relaisser libre cours à une littérature qui sera beaucoup plus nationaliste, rétractée sur chaque espace linguistique.
Au sujet de la littérature monde, hein, la voix d'Alain Mabankou, qui lui aussi enseigne aux États-Unis,
exactement,
à UCLA précisément.
Le manifeste en 2007 a eu un grand écho. Ça a permis de bouger les lignes, ça a permis de dégeler la littérature française contemporaine, ça a permis aussi de faire entendre des voix qu'on n'entendait pas. Dans ce sens, nous avions réussi ce pari, mais il reste que la littérature est une affaire individuelle. Elle ne se conçoit pas en groupe ou en troupeau. C'est pas parce que nous aurions signé un manifeste que tout d'un coup, nous nous retrouverions avec du talent. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire entendre la singularité de sa voix, de faire entendre ce qui nous est particulier.
Est-ce que le concept de littérature monde est pertinent selon vous, Tristan Garcia, dans son effectivité? Est-ce qu'il parvient réellement à déplacer la centralité de la littérature et cette vision-là, notamment que l'on porte en France, d'une littérature républicaine et blanche?
Alors je suis toujours un peu gêné parce que je trouve que c'est une belle idée, la littérature monde. C'est une belle idée, c'est un bel idéal. Mais si on est un petit peu matérialiste, il faut regarder... J'entends ce que dit Alain Mabankou sur chaque voix singulière, mais après, il y a des conditions matérielles pour faire de la littérature. Où est l'argent? Où sont les maisons d'édition? Où est la recherche? Qui édite? Qui publie? Qui diffuse? Qui défend une littérature?
Qui lit aussi?
Et qui lit? À qui ça s'adresse? À quelle classe sociale s'adresse aussi la littérature monde? Et là, disons, au bout de 20 ans à peu près, moi, je me sens partagé. C'est-à-dire, je continue à trouver que c'est un bel idéal, mais matériellement, on voit bien qu'il y a le risque que, disons, la critique d'une mondialisation qui aurait profité à des classes privilégiées culturelles emporte avec elle cet idéal, avec l'idée que, voilà, c'est une littérature qui s'est faite malgré tout beaucoup aux États-Unis, qui ont été le refuge, en effet, hein, comme il le dit, pour beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains, leur ont permis d'être entendus, de faire entendre leur voix et d'être édités. Mais le backlash est évident. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette littérature est apparue. Le retour de bâton, excusez-moi. Et est évident, cette littérature a pu apparaître comme la littérature qui serait l'expression, disons, de la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui battue en brèche par différents camps, conservateurs, réactionnaires, et pas seulement.
Mais vous voulez dire que cette tradition anglo-saxonne qu'est la littérature monde, elle est non applicable au modèle francophone ou au modèle, j'allais dire, de la littérature francophone ?
Alors, ça a été beaucoup remarqué, mais beaucoup d'écrivains de la francophonie venant de pays qui ont été décolonisés au début des années 60 ont dû trouver refuge aux États-Unis pour être reconnus. Jusqu'à, je pense à Kuruma, par exemple, ou des écrivains aussi, même des Caraïbes, enfin, même des gens, au fond, maintenant désormais reconnus en France comme glissants, il y a dû avoir un détour par l'espace culturel américain pour qu'il soit véritablement reconnu dans l'espace français. Et là, on revient à la question de la vision sartrienne, c'est que, par contre, en France, on a hérité d'une conception de l'histoire de la littérature très centrée sur l'écrit, peu attentive à l'oral, même s'il y a des anthropologues de l'oral qui sont retournés, y compris dans des régions françaises, sur tout un tas de langues, la littérature bretonne, la littérature en provençal, la littérature en occitan, etc. Donc une littérature très centrée sur l'écrit, une littérature avec une structure assez hiérarchisée, c'est-à-dire l'idée d'une littérature générale centrée sur le roman, avec des littératures marginales ou périphériques, et qui, comme je le disais, se raconte une certaine histoire de l'écrit qui est très centré sur le 19e siècle et la classe bourgeoise du 19e siècle comme étant une sorte d'acmé, de pic de l'histoire littéraire qui correspond aussi au pic de puissance de l'Europe.
Une autre analyse sur la littérature monde, celle cette fois-ci de Jacques Rouault.
Il y avait quelque chose qui était d'autant plus choquant, et là vraiment, c'est que des gens comme Georges Samprin et Nancy Houston, qui l'un venait d'Espagne et l'autre du Canada, de l'Alberta, étaient facilement intégrés dans la littérature française. Mais si vous étiez un peu arabe ou un peu noir, c'était plus compliqué. Il y avait une espèce de seconde division de la littérature qui était la littérature francophone. Voilà. La littérature française, c'était en gros la littérature blanche. Voilà. Et la littérature francophone, moins blanche.
Votre réaction, Tristan Garcia, la littérature francophone en France, c'est de la division 2, de la Ligue 2 ?
Oui, longtemps, ça a été le cas. Et je vous dis, il me semble que par les faits, en tout cas dans le monde académique et dans le milieu culturel, la légitimation par l'espace anglo-saxon et par les États-Unis ont changé un petit peu le statut d'un certain nombre d'écrivains, écrivant en français et venant de pays qui avaient été colonisés par la France, soit de l'espace méditerranéen, soit d'Afrique de l'Ouest, soit des Antilles.
Vous écrivez, je vous cite Tristan Garcia dans cet article, « Certains chercheurs reprochent notamment aux mouvements postcoloniaux de prolonger la condition sociale dans la mesure où les matières premières du Sud, littéraires, musicales, culturelles, dans un contexte plus large, sont en quelque sorte peaufinées dans les universités de l'Occident pour en tirer un maximum de bénéfices au sein d'un marché mondialisé du savoir. » Fin de citation. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par ces lignes.
Il s'est mis en place, en effet, un marché mondial de l'édition qui a à la fois un marché des traductions, je sais pas, la foire de Francfort, par exemple, en Europe, et à côté de ça, un espace un peu plus uniformisé autour de la langue anglaise, comme espace de circulation d'un certain nombre de textes, et notamment de textes élaborés dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sud global, qui ont été captés par le milieu académique et des maisons d'édition américaines, et redistribuer ensuite avec un certain nombre de difficultés. Par exemple, si on s'intéresse à la littérature au Nigeria aujourd'hui, l'émergence est de plus en plus écrasante sur 30-40 ans d'une littérature qui se fait en anglais, naturellement en anglais, a aussi écrasé des littératures dans d'autres langues, en Igbo, enfin. C'est compliqué parce que ça promeut une littérature qui a voulu être une littérature des périphéries, mais organisée de manière sous la forme de constellations, d'archipels, évitant d'avoir un centre qui aurait été l'Europe. Mais je trouve que le risque était de reconstituer un autre centre qui a été le milieu, disons, académique américain. Là encore, je le dis pas comme une critique, je le dis parce que je pense qu'on va s'en apercevoir à mesure que ce mode d'organisation, si vous voulez, de littérature périphérique, aussi du sud global, accueilli par le milieu académique et les maisons d'édition américaines, peut-être que c'est en train de se refermer avec Trump.
Dans cet article que vous faites paraître dans la revue Projet, vous filez une métaphore autour des fleuves, autour de la circulation de l'eau. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire pour vous, évidente peut-être, hein, entre la littérature et les flux? Est-ce que la littérature peut être approchée par le prisme du flux?
Alors, je ne sais pas si c'est le flux ou il y a une image que j'aime bien, c'est qu'en physique, on fait parfois sur certains matériaux ce qu'on appelle un test de fluence. C'est-à-dire qu'on essaye de voir à quel point un matériau résiste à de la pression, des formes de contraintes, ou au contraire, le fait de l'étirer. Puis au bout d'un moment, ça craque. Pour moi, la littérature, c'est un concept de cet ordre-là sur lequel il faut faire des tests de fluence. C'est-à-dire, on peut essayer de l'étendre de manière très généreuse. On intègre en fait de plus en plus de discours, de plus en plus de pratiques, au-delà des divisions entre prose et poésie, mais entre l'écrit et l'oral, entre littérature centrale et paralittérature. On change de support, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, comme dans les années 2000, le blog, par exemple, on va lui donner une dignité littéraire, ou peut-être on va aller jusqu'à
sur les réseaux sociaux,
tweet,
parfois.
Voilà. Donc, tout ça, vous voyez, ça, c'est le fait d'étirer, en fait, le littéraire. Mais jusqu'à un moment où il faut quand même que littérature soit un concept suffisamment résistant, c'est-à-dire admettre qu'à un moment, si on l'étire trop, ça craque.
C'est ce qu'on se dit en vous écoutant. On se demande, dans le fond, si la littérature est un concept opérant, parce que il intègre tellement de formes diverses, de choses diverses, de natures diverses. Vous parlez des supports qui se multiplient. Où est-ce que la littérature s'arrête? On sent bien que vous efforcez vous-même de ne pas la circonscrire, même tout de même, pour en faire un concept, il faut bien le définir et donc le circonscrire.
La littérature, c'est quelque chose qui, au gré des époques et des cultures humaines, peut avoir tendance à s'étendre, jusqu'à, à mon avis, à craquer ou à se dissoudre, en embrassant tous les discours. Quasiment, pourrait-on dire, toutes les pratiques de la langue. Et à ce moment-là, on perd la littérature parce qu'on a un autre concept qui serait celui de discours, ou celui d'acte de langage, en disant, au fond, on décide que tout acte de langage est par nature déjà suffisamment intéressant pour valoir.
Vous parliez tout à l'heure des biographies politiques, c'est un acte de langage.
Oui, biographie d'Henri IV par François Bayrou. Il y a des prétentions littéraires très souvent en plus qui accompagnent ces ouvrages. Ou bien, donc la littérature, c'est ce qui va entre cette potentielle dissolution, extension quasiment sans fin à tous les actes de langage, ou contraction en général très aristocratique, hein, avec l'usage d'un concept très honorifique, très resserré, qui consiste à dire c'est au sein de la production livresque un certain nombre de très bons livres ou de chefs-d'œuvre qui représentent en général l'esprit d'une langue et l'esprit d'un peuple qui sont très rares. Et donc là, c'est la conception ultra-aristocratique d'une littérature extrêmement rare, très concentrée, et qui là prend le risque d'abandonner en dehors du champ littéraire 99% des productions productions langagières humaines. La littérature, c'est ce qui essaye de vivre entre ces deux extrêmes, entre une extrême concentration aristocratique et une quasi-dissolution dans la totalité des actes de langage.
Est-ce qu'il existerait un moyen de définir la littérature par le truchement, par la voie de la lecture? Vous dites notamment que la littérature, c'est également une pratique à éprouver, pas juste un objet à définir. Si c'est une pratique à éprouver, on l'éprouve aussi, cette littérature, en la parcourant, en la lisant.
Oui, parce qu'évidemment, comme c'est aussi un concept honorifique, il y a plein d'instances de légitimation. Il y a des instances académiques, la recherche, il y a la critique avant ça, il y a les programmes scolaires, tout ça c'est institutionnel. Mais la première forme de légitimation, c'est l'acte de lecture. C'est la constitution d'un lectorat. Et ça forme aussi des petites institutions. Par exemple, il y a des choses qu'on peut remarquer. Ça fait une dizaine d'années que sont revenus à la mode des book clubs, c'est-à-dire des pratiques sociales autour de la lecture. Avec l'idée que la lecture n'est pas juste une pratique solitaire, mais est aussi une pratique sociale, et qu'on va s'entendre à plusieurs en confrontant des lectures pour lire des textes, comprendre des textes, les jauger ensemble, et que donc la lecture, aussi bien que l'écriture, que l'édition, que le commentaire des textes, est aussi une forme de sociabilité.
Merci beaucoup Tristan Garcia. Je rappelle que vous êtes philosophe, romancier, enseignant à l'université Jean Moulin Lyon 3, et dans cet article publié dans la revue Projet, vous esquissez donc les contours de cette question, sans y répondre tout à fait, mais c'est volontaire. Peut-on encore définir la littérature? Faut-il même la définir? C'est ce que vous êtes venu nous expliquer. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du Soir.
Merci.